Pas tous les jours chez maman, mon petit Samuel. Et puis le silence. Le regard de Sibylle sur Samuel. Ce temps qui ne passe pas. Ploc, ploc, goutte à goutte. La résonance sur l'inox, dans la cuisine. Le souffle lourd de Samuel. Sa façon de baisser les yeux. De tenter un vague sourire. De racler sa gorge. De se gratter la joue. Samuel qui cherche sa mère du regard. Samuel qui perd pied mais qui se lance. S'arrête. Reprend. Qui raconte qu'il était à une soirée avec des copains. Que ses copains ont déconné et lui, il n'a rien dit ni rien fait contre eux. Oui, il a déconné. Il aurait dû, c'est vrai. C'est vrai. Et alors il parle de tout. Des flics, de la nuit au poste et des clopes écrasées sur les murs et sur le canapé, des bouteilles jetées au plafond pour atteindre les lustres, du vin rouge sur les murs, le vieux Sna. Il prend un temps considérable à raconter. Cette fois, Benoît ne rit plus du tout. Il ne regarde plus Sibylle, ou quand il le fait, c'est pour lui demander avec un air effaré si ce qu'il entend est vrai, car il n'a pas l'air d'y croire. Il voudrait qu'elle confirme, qu'elle lui dise que c'est vrai. Et Vyosna, est-ce que c'est vrai? Est-ce que son fils est resté comme un con cloué à une porte pendant que les deux autres... Sibylle se redresse quand elle entend cette question. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'il aurait mieux fait de se jeter sur elle avec les autres? Mais non, non, mais bien sûr, Sibylle, arrête de me caricaturer. Je ne suis qu'un mec, je sais, mais tous les mecs ne sont pas des connards. Je sais. Pas tous. Samuel a bien vu comment son père a arrêté de jouer, comment il a écouté de plus en plus sérieusement, comment il a glissé vers cet autre rôle, le père sérieux qui s'engage et prend des décisions. Son père joue ce rôle-là comme il aime jouer au père copain quand ils sont tous les deux à Paris, dans le nouvel appartement qu'il occupe, ou celui, bien pire, de père complice, quand il évoque avec lui les femmes, la sexualité, même s'il fait semblant de ne pas voir comment Samuel rougit à chaque fois qu'il lui parle d'une femme qu'il a rencontrée, ou de ce que, à son âge, Samuel devrait quand même avoir une vie sexuelle, non? Son père le fait comme si c'était des rôles qu'il jouait et qu'il pouvait en changer d'un coup, en passant de l'un à l'autre, sans transition. Et il n'est pas surpris quand Benoît déplace sa chaise et se penche vers lui en le menaçant du bout de l'index, quand il prend cet air ridiculement sérieux, quelque chose en lui qui cabotine même en ce moment où il veut être grave, solennel, un masque comme un autre. Mais les menaces sont réelles et elles tombent très vite. Tu sais que moi aussi j'en ai fait des conneries quand j'avais ton âge, tu le sais ça? Je t'ai raconté. Eh bien les petits branleurs. Tu sais où on les mettait, non? Tu sais où j'ai passé mon adolescence de merde, moi? Eh bien, tu vas faire pareil. Toi aussi, tu vas aller chez les cathos. Toi aussi, tu vas goûter du pensionnat, à côté de Tarbes. Il y en a un très bien. J'y suis allé, j'ai fait mes meilleures années. Et si tu trouves que c'est un peu dur, dis-toi que ton père y est passé et qu'il n'en est pas mort. Samuel essaie de se défendre. Mais tout son corps se rétracte. La gorge lui fait mal. Il a soif. Il boit un grand verre d'eau et les larmes montent. Et il voudrait lâcher que sa mère et son père ont toujours été d'accord au moins sur un truc, c'est qu'ils ont toujours voulu l'éloigner, se débarrasser de lui, qu'ils foutent le camp, qu'ils disparaissent comme si c'était à cause de lui qu'ils avaient passé leur temps à s'engueuler et à se détester, comme s'il avait été la cause de leur naufrage et pas leur victime. Parce qu'il voudrait leur dire comment il a déjà rêvé qu'il les tuait, ses parents. Qu'un jour il leur collait à l'un et à l'autre une balle dans le front parce qu'ils se retrouvaient avec un flingue et qu'ils pouvaient les tuer, qu'ils pouvaient le faire, l'un après l'autre, comme ça, pour ne plus les entendre, pour ne plus voir leur regard sur lui. Ses rêves s'arrêtaient toujours avant de savoir si oui ou non il se tuerait aussi après. Mais ça n'avait pour lui aucune importance. Ce qui était important, en revanche, c'était d'entendre la déflagration dans son cerveau, de voir leurs corps inertes, de les voir pétrifiés dans une pose ridicule et tellement surprise, incrédule, scandalisée aussi. Une pose où dans les yeux, ils auraient le temps de dire quelque chose d'aussi con qu'un « Oh !» et de s'effondrer en laissant le silence gagner au moins une fois sur eux, sur lui, sur eux tous, pour que la vie de Samuel s'échappe enfin de cette place à laquelle il se sentait condamné et pris au piège, assigné à résidence, entre eux. Le sourire carnassier de Benoît, comme Samuel ne lui avait jamais vu, comme s'il ne connaissait pas son père. Et ce sourire qui se transforme, ce visage qui se transforme, il le revoit.